Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Tiens, une femme nommée hier soir à la présidence de Radio France, Sybille Veil, du jamais vu depuis 37 ans, époque Michel Cotta. Tiens, et si on l'invitait dans l'instant M, comme on l'a fait d'ailleurs avec tous les patrons de médias, c'est encore le cas aujourd'hui, peut-être qu'elle dirait oui, peut-être pas. Sachez que ce n'est pas faute d'avoir essayé avec Mathieu Gallet sans y être jamais arrivé. Tiens, une femme nommée à la tête de l'Obs, du jamais vu tout court, bigre, on ne cesse de vous le répéter dans cette émission, les postes de direction attribués à des femmes dans toute l'histoire de toute la presse d'information générale, quotidiens nationaux, quotidiens régionaux et hebdomadaires se comptent sur les doigts d'une main en France. Voilà, c'est dit, maintenant faisons connaissance, on n'invite pas les hommes pour les faire parler des hommes au travail, alors pourquoi on inviterait les femmes pour ne leur causer que de cela ?
L'instant M, Sonia De Villers. Sur France Inter.
Bonjour Dominique Nora.
Bonjour.
Bah on en causera quand même un tout petit peu, mais pas que de cela.
Parce non, que... parce que c'est pas pour ça que j'espère on m'a proposé le poste voilà. Et que j'ai été élue.
Voilà, vous êtes donc directrice de la rédaction en lieu et place de Mathieu Croissando. Je vous propose un petit tour de l'actualité des médias que nous commenterons ensemble. À la une de l'actu média, l'AFP, l'agence France Presse. C'est finalement Fabrice Friis, énarque, ancien patron d'une agence de com de Publicis, qui en a été élu président après que Emmanuel Hogg a jeté l'éponge. Il se représentait, Emmanuel Hogg, pour un troisième mandat. Il s'est dit lâché par l'État. L'AFP, c'est 2200 collaborateurs de 80 nationalités différentes et 1500 journalistes. Une concurrence très rude avec les géants de l'info américaine et britannique que sont AP et Reuters. Sachez que le World Press Photo, c'est le prix de la photographie le plus prestigieux du monde, a été remis hier à l'AFP pour une image incroyable, celle d'un manifestant qui prend feu au Venezuela. Voilà, je vous invite à découvrir ce cliché, il est totalement incroyable, Dominique Nora, ouais. Vraiment. Vous avez une réaction à ce que je viens de raconter?
Oui, bah, l'AFP est en difficulté parce que c'est plus la source d'information pour la presse et les médias français. Avec les réseaux sociaux où on peut faire de la veille en fait sur les médias du monde entier, par thème. Moi, j'utilise beaucoup Twitter, par exemple, sur les sujets du numérique, qui était ma spécialité. L'AFP devient une source parmi d'autres. Et sur les sujets globaux concernant l'étranger, c'est souvent moins pertinent que d'autres sources.
Alors, c'est moins pertinent que d'autres sources. Et en même temps, ça repose sans cesse la question d'un journalisme qualifié, d'un journalisme professionnel, d'une rigueur d'agence de presse. C'est difficilement remplaçable, une rigueur d'agence de presse,
non,
en même temps.
C'est indispensable, mais c'est pas l'unique source l'unique comme source. Ça a pu l'être autrefois.
Alors, justement, j'en profite parce que Dominique Nora, avant d'être nommée à la tête de l'Obs, vous l'avez dit, vous aviez deux spécialités, l'économie et le numérique. Nous arrivons au terme d'une longue audition, celle de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, devant le Congrès américain.
Facebook is an idealistic and optimistic company. For most of our existence, we focused on all of the good that connecting people can do. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections, and hate speech. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry.
Alors, on vous a laissé la voix de Mark Zuckerberg dans le texte et on l'entend. Il dit « c'est une erreur, c'est une très grosse erreur et c'est ma responsabilité et je m'en excuse ». Ce qui m'intéresse, Dominique Nora, c'est qu'on a l'impression que cette semaine s'est jouée aux États-Unis des positions que vous avez souvent défendues dans vos éditoriaux et dans vos papiers comme journaliste. C'est-à-dire des positions qui font se rapprocher les États-Unis d'une position plutôt européenne, à savoir celle de réguler ou de vouloir réguler les géants de l'Internet américain.
Oui, mais il a fallu des scandales comme celui de Cambridge Analytica où on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un système organisé de pillage des données et de ciblage des gens qui pouvait y compris fausser la démocratie. C'est-à-dire ça a pu avoir une influence sur le Brexit en Grande-Bretagne et sur l'élection de Trump aux États-Unis. Et cette dimension-là, malgré le fait que dès le départ, Facebook était vraiment construit sur une monétisation par la publicité, donc par le ciblage de ses usagers. Et ce dicton qui dit « quand c'est gratuit, le produit c'est vous » n'a jamais été plus vrai que pour Facebook. Donc cette nécessité de régulation, en fait, elle existait depuis très nombreuses années.
Mais c'était un tabou. Zuckerberg, un tabou aux États-Unis. C'était même perçu de la part des Européens comme une volonté de nuire à des entreprises américaines.
Oui, alors c'est ça le paradoxe, c'est que maintenant aux États-Unis, ils disent « regardez l'Europe avec le règlement sur la régulation des données privées, ils donnent l'exemple, mais il faut dire que Trump aussi est assez anti-Silicon Valley, donc ça peut se passer aussi aux États-Unis aujourd'hui, parce qu'il trouve que ces sociétés de la Silicon Valley sont au fond ultra-démocrates et sont sur des positions et des valeurs qui ne sont pas du tout les siennes.
C'est extrêmement paradoxal.
C'est extrêmement paradoxal.
Puisque le scandale Cambridge Analytica, c'est justement au service de sa campagne à lui.
C'est extrêmement paradoxal parce que ce scandale arrive pour quelque chose qui lui a été favorable, mais en fait, il peut en profiter pour diminuer la puissance des GAFA, Google, Facebook, Amazon, qui sur l'immigration, par exemple, ou sur l'homosexualité, sont ultra, en fait, démocrates.
Démocrates, c'est ça.
Donc c'est assez paradoxal et amusant.
Alors, je vous renvoie aussi à la couve de vos confrères du Parisien Week-end. Sondage exclusif IFOP, alerte sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'étale sur plusieurs pages avec beaucoup de photos, d'infographies, d'explications. 25% des utilisateurs de Facebook en France ont l'intention de supprimer leur compte. Et 67% des Français ne font plus confiance à Facebook. On en parlait ce matin avec le ministre Mounir Majoubi. L'un de nos invités cette semaine nous disait, ça s'appelle du social cooling. C'est l'appellation trouvée par un sociologue sur l'idée que cette perte de confiance, ce refroidissement, cet éloignement, cette volonté d'utiliser de manière beaucoup plus passive et de donner beaucoup moins aux réseaux sociaux. Mais finalement, c'est tout le système économique, c'est tout le modèle qui risque de s'effondrer.
Je pense pas que le modèle soit en danger parce que Facebook, très intelligemment, a racheté des petites start-up qui lui faisaient concurrence, par exemple, auprès des jeunes.
Oui.
Donc moi, je sais pas si vous voyez des jeunes, mais les jeunes sont plus tellement sur Facebook.
Non.
Ils sont sur Instagram, ils sont sur Snapchat. Instagram appartient à Facebook.
Mm-hmm.
Donc le modèle, en fait, se renouvelle à travers une concurrence. Là, Facebook va miser beaucoup plus peut-être sur Instagram aujourd'hui. Mais c'est le même modèle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est gratuit, ça repose sur la publicité, donc sur le ciblage des usagers.
Merci beaucoup Dominique Nora, on continue avec vous. Mais comme chaque vendredi, votre Madeleine de télévision ou de radio, alors Dominique Nora, vous n'avez pas le droit de jouer, c'est réservé à nos auditeurs. L'adresse est toujours la même, l'instantm@radiofrance.com. Le cadeau ce matin, c'est les microfilms de Serge Danet, 7 heures d'entretien, c'est magnifique. La question, quel est le nom de cette émission dont j'adorais le générique quand j'étais petite ? Comment s'appelait cette émission, l'Instant M, à radiofrance.com? Je ne vous donne aucun indice, mais simplement je l'ai choisi parce que j'ai lu dans Libération que Dominique Nora a failli devenir vétérinaire. C'est vrai que vous avez failli devenir vétérinaire?
Oui, absolument.
Vous aimez les bestioles?
Je voulais faire des études de vétérinaire et mes parents m'ont dit non, c'est peut-être trop spécialisé, t'es pas décidé, fais donc l'agro. Donc j'ai fait des études d'agronomie.
Et ben, ingénieur voilà, agronome. Donc, ingénieur agronome. Allez, on parle de presse et on parle de l'Obs.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Être femme n'est pas une compétence, mais être un homme non plus, ont écrit vos 77 consoeurs du Parisien. À l'époque, elles avaient postulé toutes ensemble pour un poste à la direction de la rédaction qui était exclusivement magazine dans leur journal. Vous leur avez emboîté le pas, vos consoeurs de Ouest France leur ont emboîté le pas. Et puis au final, voilà, c'est vous qui avez été désignée. Le New York Times a publié le mois dernier, Dominique Nora, des statistiques sur son énorme rédaction qui est beaucoup plus vaste que la vôtre, à tous les niveaux hiérarchiques. Et on a compté et on a publié des infographies, les hommes, les femmes, les blancs, les latinos, les asiatiques, les noirs. Ça vous semble vertueux ?
Oui, je pense qu'en France, on ne fait pas assez ce genre de choses et que les médias, et y compris le nôtre, manquent singulièrement de diversité, pas seulement sur hommes-femmes, mais effectivement sur la diversité, l'origine des gens que l'on embauche.
L'origine sociale,
et que l'on fait parler
aussi,
même,
parce que c'est une forme d'homogénéité sociale, en fait, le corps journalistique. Vous avez vu que récemment, il y a une grande école de journalistes qui s'appelle le CFJ, qui a décidé de modifier son concours d'entrée en supprimant, par exemple, des épreuves de culture générale à l'écrit qui passaient beaucoup par une forme de bachotage et de QCM. Ça en a fait hurler certains qui voient l'écrit reculer, et ça en a fait applaudir d'autres qui disent mais c'est une façon d'aller chercher d'autres gamins, d'autres jeunes, d'autres
indispensables. Et au niveau du groupe avec Le Monde, d'ailleurs, on a des initiatives maintenant qui commencent même au stage de troisième, c'est-à-dire qu'on On sait tous qu'au fond, les élèves de troisième qu'on prend en stage, c'est souvent des enfants d'amis ou de gens de la rédaction. Et on veut supprimer ça et en prendre au moins 50% qui viennent de la diversité. On travaille avec des associations qui font
et
ça
avec
nous.
Et d'un peu partout en Ile-de-France. Est-ce que vous appartenez pas, en fait, à une génération, Dominique Nora, qui a vu se mélanger dans les rédactions des gens qui avaient fait des écoles de journalisme et des gens qui se sont formés sur le tas? Vous êtes ingénieur agronome, vous venez le dire, donc ce métier de journaliste, vous l'avez appris sur le tas. Et finalement, c'était extrêmement important, ce mélange des genres et ce mélange des parcours.
Alors moi, c'était pas tout à fait sur le tas. Je suis passée par quelque chose, je sais pas si ça existe, qui s'appelait Communication Demain ou Journaliste Demain, qui avait été créé sur le 1% professionnel, avec l'idée de prendre des gens quand même bac plus 5, mais pour qu'ils aient une expertise dans un domaine et une culture finalement plus approfondie, que soit en sciences ou que soit en littérature. Et en un an, on nous formait au journalisme avec des conférences, des grands, des Suffert, des Imbert, et puis des stages dans les médias.
Alors, l'Obs ambitionne, dites-vous, c'est important parce que j'ai lu votre premier, évidemment, édito qui s'intitule « Vive le journalisme ». Il est forcément examiné à la loupe, ce premier édito de la nouvelle directrice de la rédaction de l'Obs. Notre ambition est de rester fidèle aux valeurs du titre fondé par Jean Daniel et Claude Perdriel dans la lignée de la deuxième gauche. Écoutez donc Michel Rocard, on est en 1977.
Depuis sa fondation, le socialisme a au fond toujours échoué en pays développé et de tradition démocratique. Soit en devenant bureaucratique, soit en modérant trop ses ambitions. Des circonstances précises font que c'est à la France qu'il incombe de relever l'enjeu et d'imposer pour la première fois, tout à la fois, la fusion des deux grandes traditions du mouvement ouvrier et la réussite de la première expérience de socialisme démocratique.
Alors moi, je me suis vraiment demandé, Dominique Nora, c'est quoi la deuxième gauche en 2018 ?
C'est une question compliquée parce que je pense qu'elle est incarnée par personne dans le personnel politique actuel.
Bah c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on a un Valls et un Hamon qui se revendiquent les deux de Rocard. Résultat, le Parti socialiste n'existe plus et Macron a pulvérisé tout ce qui ressemble à un lignage politique. Alors vous êtes où là-dedans ?
Écoutez, nous, on a des valeurs qui sont les mêmes depuis le début. Humanisme, honnêteté, tolérance, progrès social, plaisir. Mais ça veut dire qu'on n'est pas arc-bouté sur les avantages acquis, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément que tout reste pareil éternellement. Je pense que pour préserver justement les valeurs sociales de l'Europe, il faut réformer. Mais il faut réformer avec avec en tête la justice sociale, la redistribution. Et donc, pas pour l'instant, je pense que ce que fait Emmanuel Macron, qui finalement gouverne à droite. Mais
justement,
alors que on pouvait, quand on a voté au moment des élections présidentielles, se dire dans le « et en même temps », il y aurait beaucoup de réformes de gauche, de redistribution.
Et quand
pour l'instant, on ne les voit pas.
On a voté, ça veut dire que vous avez l'impression que l'Obs a voté pour Macron ?
Il y a eu Mathieu Croissant-Dau a appelé à le faire pour des raisons tactiques,
oui, je
pour éviter
pas.
Que la droite et l'extrême droite.
Indépendamment de la veille de l'extrême droite. Mais c'était après une longue campagne où l'Obs a multiplié les unes sur Macron. Vous vous en souvenez très bien, vous étiez à la rédaction.
Oui, absolument. Et ensuite, on a pas fait des unes, on a essayé d'expliquer sa politique et sa campagne, mais notre regard aujourd'hui, il est forcément critique, c'est-à-dire on juge ses actions, pas systématiquement critique, mais action par action, on prend position.
Pour vous comprendre idéologiquement et pour comprendre où va se situer l'Obs, vous écrivez, Dominique Nora, l'hyperfinanciarisation du système engendre des inégalités insupportables. Vous soulignez l'angoisse des travailleurs déclassés, des jeunes laissés sur le carreau. Donc ce sont des mots très à gauche. Et puis, paragraphe suivant, vous démarrez par cette phrase. Faute de s'être réformé à temps, l'État-providence est surendetté. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression de lire un édito du Point.
Mais non, parce que je pense que il y a plus de dichotomie droite-gauche. Forcément, on ne touche pas à l'État si on est de gauche. On dépense plus d'argent que tout le monde, par exemple, sur l'éducation. Et notre système est un des moins performants quand on regarde les classements de l'OCDE. Donc, il faut le réformer. Et ça veut pas dire qu'il faut le détruire. Au contraire, pour préserver ce qu'on fait de bien, il faut le réformer. Donc, on est pour la réforme, on est progressiste.
Très bien.
Mais sans détruire.
Et on reparlera
le
de la dette
sociale.
Un jour où on aura le temps. L'Obs ambitionne, dites-vous par ailleurs, de se faire le porte-voix des héros du quotidien qui alertent et qui luttent. La France, la semaine dernière.
C'est qui a un rapport de force aujourd'hui ? C'est les cheminots !
Quoi qu'on en pense, à Air France, on a eu une perte de pouvoir d'achat. À Paris, eh bien, on a par exemple Paris 4 qui est en train de voter un blocus en ce moment. On a Paris 8 qui reconduit le sien. On a bien sûr aussi Paris 10 Nanterre qui est extrêmement mobilisé.
La Sarde, elle est à qui ?
Elle est à nous !
Macron, t'es foutu ! La justice est dans la rue !
Tous ensemble, grève générale !
La semaine dernière, grève SNCF, blocage des universités, grève Air France, évacuation de la ZAD, pardonnez-moi, justice morte. L'Obs consacrait sa couve aux animaux, ni à ceux qui alertent, ni à ceux qui luttent. Donc,
c'est compliqué en hebdomadaire, on ne peut pas faire le résumé de l'actualité de la semaine ou anticiper sur ce qui va se passer la semaine d'après. Donc,
je pense que ça a été une des semaines sociales les plus chaudes la semaine dernière, Dominique Nora, mais oui, vraiment depuis des mois, quoi.
Oui, c'est vrai. Oui. Mais il se trouve qu'on a parlé d'autre chose, ça peut arriver.
Des animaux, mais après, elle était... c'est cet amour dont on parlait tout à l'heure, c'est votre ancienne...
Non, il se trouve que l'auteur de La vie secrète des arbres, on avait l'exclusivité de son livre suivant qui s'appelle La vie secrète des animaux. Ouais. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens et donc on a choisi de faire la une là-dessus.
Bien. Et ensuite, vous dites on va être le porte-voix de ceux qui inventent, qui agissent et qui redonnent espoir. Et cette semaine, c'est François Hollande. C'est lui qui invente, qui agit et qui redonne espoir.
Non, François Hollande, ce qu'on a trouvé intéressant, c'était qu'il juge la première année d'Emmanuel Macron, ce qu'il a fait en disant qu'il creusait les inégalités alors que ses gouvernements les avaient diminuées. Et donc voilà, c'est un débat et je pense qu'il était pertinent de donner la parole à François Hollande qui sort un livre cette semaine.
Alors vous voulez que l'Obs revienne aux fondamentaux des enquêtes, des reportages, des portraits, des interviews, des débats et des colloques. C'était quoi l'année dernière l'Obs si c'était pas des enquêtes, des reportages, des portraits, des interviews, des débats et des colloques, concrètement ?
Non, c'était, on va pas tout révolutionner, l'Obs est un hebdomadaire. Je trouve qu'on n'avait pas assez le rôle que je voudrais lui donner aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire éclairer l'avenir, c'est-à-dire montrer ce qui va se passer, essayer de prendre position. Moi, je suis bien placée parce que j'ai suivi tout ce qui était du domaine numérique pour voir l'idéologie de la Silicon Valley à travers les Google, Facebook, Amazon, mais pas seulement, c'est-à-dire en médecine, tout ce qui concerne le transhumanisme, qui est la différence entre, au fond, guérir, réparer l'humain et le transformer, l'augmenter, l'améliorer par des technologies nouvelles. Tous ces débats éthiques autour de la bioéthique, par exemple, tous ces débats autour des données et ce qu'on peut en faire et comment on peut les protéger et comment on peut se prémunir contre le pillage des données. Tout ça, ce sont des débats passionnants trop rarement faisaient la une de l'Obs par le passé. Donc je voudrais accentuer ce côté débat d'idées qui, à mon avis, va quand même dessiner les décennies à venir. Donc je trouve qu'on n'en parle pas assez. On est un petit peu trop le nez sur le guidon, sur l'actualité immédiate.
On a l'impression qu'on est dans une période de telle défiance des journalistes que soit les ministères confisquent une interview et la réécrivent entièrement au point que vos confrères des Échos disent on va même pas la publier.
Oui, c'était un grand précédent, ça.
Soit une militante féministe, Caroline De Haas, suite à une interview donnée à l'Obs, accuse l'Obs partout où elle peut passer d'avoir dénaturé ses propos.
Ce qui est faux parce qu'on a la bande enregistrée.
Voilà. Mais on ne peut plus se passer d'une bande enregistrée.
Absolument, mais pour toutes les interviews, on fait des bandes enregistrées. Mais c'est vrai qu'il y a une dérive vers la réécriture des interviews et que c'était assez sain que les Échos, à un moment, disent trop, c'est
disent
trop.
Stop.
Et on fixe la ligne jaune.
Merci beaucoup, Dominique Nora. Donc, l'Obs est en kiosque. Et puis, ce que je vous propose, c'est de revenir dans quelques mois, puisque là, on ne s'appuie que sur un édito, vos envies et vos désirs d'avenir. Et puis, comme ça, on pourra s'appuyer sur le papier, sur vos pages et sur ce que vous en avez fait. Donc, vous êtes la bienvenue.
Absolument,
dans quelques mois.
Merci.
Voilà. Alors, évidemment, c'était Les Animaux du Monde. C'était mon émission préférée de quand j'étais petite. Le Toucan Toco, et c'est Rémi qui a remporté. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonate Villers.
Vous partagez la même passion que Dominique Nora et vous y consacrez une émission.
Exactement, les bienfaits des arbres sur la santé. On s'intéresse à la sylvothérapie et nous recevons une sommité mondiale, le professeur King Lee, professeur associé à l'école de médecine de Tokyo. Et nous attendons toutes vos questions sur les bienfaits que vous éprouvez lorsque vous vous promenez dans les bois, en forêt, dans un grand parc. 01 45 24 7000.
Promenez-vous dans les bois.